France Culture.
L'obsession de Jean-Jacques Zampé, c'était d'être léger. Vous savez, il disait souvent, le dessin d'humour, c'est comme le jazz, c'est l'humilité, c'est la légèreté. On suggère, on n'impose pas.
Sur ce dessin que vous montrez, on voit une très jeune adolescente qui est face à la mer démontée. Il y a un phare, il y a des nuages qui courent dans le ciel. Et elle est en petite tenue et elle se tient très droite avec les cheveux dans le vent dans une position qui pourrait être celle du défi.
Il n'y a pas que de la poésie. Moi, je préfère, j'adore tout ce qui est les dessins les plus comiques qui sont ce qu'on va appeler des gags qui me font éclater de rire.
Alors là, il y a un gag, effectivement, puisqu'il y a le menu d'Air France dans l'avion. Terrine, bellexoise aux arômes, le filet de truite brigagnole, vous voyez, la sauce pergalou.
Au final, on a un petit plateau revin, lyophilisé,
avec
très triste.
Des boîtes en plastique absolument tristounettes.
C'est pas béni oui-oui du tout, Zampé. Il y a des gens qui disent ça. C'est critique, Zampé. C'est critique, bien sûr que c'est critique.
Du couple, de la solitude, de la consommation, du désir de grandeur.
C'est un peu dites-le avec des fleurs, quoi. C'est son dessin préféré. C'est un dessin assez cruel et c'est un type qui est hyper fier de lui et parle à son pote et lui dit « Je fais partie de ces gens qui ont distribué un sacré nombre de torgnoles dans ma vie. »
Bon, la poésie, oui, il y a aussi. Il y a de la violence, il y a de la noirceur. Il n'y a pas... autant de tendresse qu'on voudrait nous faire croire.
Le gentil Zampé avait la dent dure. Hein. Il pouvait avoir la dent dure. On voit que rien ne lui échappait du ridicule de la vie politique et sociale.
Jean-Jacques Zampé, 1932-2022. Ombres et lumières. Un documentaire de Julien Thèves, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
Il y a des artistes qui parlent autant que leurs œuvres. Zampé, non. Zampé... Je crois qu'il y avait un mystère du dessin, même pour lui-même.
Johann Sfar, dessinateur et réalisateur.
C'est quelqu'un que j'ai découvert tout petit. Je pensais que c'était le dessinateur des grandes personnes. Ensuite, j'ai découvert le petit Nicolas. Et ensuite, en arrivant à Paris, pendant mes années d'étudiant, j'ai acheté tous ses livres. Et ensuite, quand je suis entré à Paris Match, j'ai alterné avec lui, parce qu'il livrait plus un dessin par semaine. Il faisait toutes les deux semaines. Je lui ai demandé la permission avant d'aller dans Paris Match. Il m'a dit, vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Sternberg et plein de grands illustrateurs comme Bosque. Donc, votre génération ne m'intéresse pas, vous ne m'intéressez pas, les bandes dessinées ne m'intéressent pas. J'ai dit, bon, bah, si c'est comme ça, je vais pas le faire. Il dit, si, faites-le, parce que on est collègues dans ce métier. Dès qu'on peut faire 3 francs 6 sous avec le dessin, il faut accepter. Et s'il vous embête, vous m'appelez, je vous défendrai. Donc, une vraie fraternité corporatiste.
Comment ne pas aimer Zampé ? L'œuvre du dessinateur est un monument national. Ses dessins sont lumineux et graves, joyeux et mélancoliques, drôles et rêveurs, profond et léger, nostalgique et intemporel, métaphysique et concret, épuré et foisonnant, plein d'esprit. Derrière ces images à la beauté confondante se cache l'homme Zampé. Jean-Jacques né à Bordeaux, à l'enfance cabossé, ambitieux et travailleur, séducteur et secret. Comment aimer Zampé, l'artiste qui ne s'aimait pas ?
Les fumeurs de Zampé ont l'air heureux et les yeux clos. Pendant un instant, ils ont pris soin d'effacer le monde pour se livrer à des pensées que l'on devine vagues, aériennes et voluptueuses. On sent l'ironie sous les paupières et la sagesse sous la nicotine.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
On vient d'arriver chez toi et je m'aperçois qu'il y a tous les albums de Zampé qui sont étalés sur cette table. Tu aimais beaucoup Zampé, tu l'as rencontré, tu as même consacré un livre à Zampé, happé par Zampé, chez Serge Safran éditeur que j'ai là dans la main. Comment tu as rencontré Zampé ?
En fait, je ne l'ai pas rencontré quand j'ai fait le livre. C'est une fois que le livre a été publié qu'un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Et évidemment, j'ai reconnu tout de suite sa voix, la voix de Zampé, qui est une voix hésitante, un peu chantante, et qui commence à me parler, et puis qui me dit au bout de quelques phrases, mais je ne vous ai pas encore dit qui vous appelle. Et je lui dis, ben, je sais bien qui m'appelle, j'ai bien reconnu votre voix. Et là, il m'avait paru très amusé, il m'avait dit, ah bon, c'est drôle, ça, c'est étrange, vous connaissez ma voix ? Bien sûr, oui, je connaissais sa voix, et puis même avec le début de la conversation, j'aurais pu comprendre que c'était lui.
Alors tu as rencontré Zampé d'abord par les livres, par ses albums, et son dessin t'a touché
Oui, en fait, je crois que je l'ai rencontré d'abord par la presse. Quand j'étais enfant, on voyait des dessins de Sempé, par exemple, dans Paris Match. Et donc, on voyait ces dessins de Sempé, et les albums sont venus après. Les grands albums parus chez De Noël, ce sont des albums un peu majestueux, et ça n'est pas ce dessin qu'on voit d'abord. Je trouve qu'il me semble qu'on voit souvent des dessins de Sempé. Ça a été utilisé dans la presse, on les voit dans même sur des fournitures scolaires. Au fond, ils sont partout, les dessins de Sempé.
Les albums sont devant nous. Ils portent tous des titres assez simples, assez poétiques. Est-ce que tu peux nous donner la liste de tous ces titres ?
Alors, il y a beaucoup de pluriel dans ces albums.
Rien n'est simple.
Grand rêve, au pluriel. Enfance, au pluriel.
Tout se complique.
Multiples intentions.
Sauf qui peut.
Âme sœur, au pluriel.
Monsieur Lambert.
Bourrasque et accalmie.
La grande panique.
Au pluriel. Sincères amitiés, au pluriel.
Saint-Tropez. Et l'information consommation.
Ce pluriel, vacances, au pluriel.
Marcelin Cailloux.
C'est une façon de montrer que chaque fois qu'on entre dans un album de Sempé, on va être face à une multiplicité de situations, de personnages.
Bonjour, bonsoir.
Rien n'est jamais identique.
L'ascension sociale de Monsieur Lambert.
Il y a des choses qu'on voit, mais par exemple, si on regarde simplement la façon dont sont les personnages qui sont présents.
Simple question d'équilibre.
De temps en temps, on voit un personnage seul dans un très grand paysage. Parfois, un couple. Sempé a beaucoup dessiné.
Un léger décalage.
Quelquefois, on voit quelques personnages qui se promènent. Et puis, parfois, mettons toute une salle de restaurant ou tout un hall d'exposition ou de musée.
Les musiciens.
Et puis, quelquefois, toute une manifestation avec des gens qui remplissent des places publiques énormes.
Comme par hasard.
Ou alors des bouchons, énormément de voitures.
De bons matins.
Donc, par exemple, uniquement si on regarde le nombre de personnages, de temps en temps on a un personnage seul et de temps en temps l'espace est totalement saturé.
Vaguement
et
compétitif.
Ça correspond pour moi à cette vision du pluriel. Rien n'est jamais stéréotypé, même si on rencontre des personnages qu'on croit reconnaître d'un album à l'autre.
Luxe, calme et volupté.
C'est-à-dire par exemple des petites danseuses en tutu ou des vieilles dames avec un parapluie et un chapeau. Enfin, il y a quelques personnages qu'on retrouve, un peu comme dans la comédie humaine, on retrouve des personnages semblables et en même temps il y a toujours une grande diversité, une grande multiplicité de situations.
Par avion.
Pour moi, ce qui donne l'impression que Sempé est monumental, c'est que c'est une somme.
Insondable mystère.
Et je parlais de la comédie humaine, je crois que ce qu'il a dessiné,
Raoul
c'est pas tel personnage ou tel autre personnage, mais d'une certaine manière, toute la France.
Beau temps.
Les côtes bretonnes, et puis par moments, on voit au contraire les forêts, les clairières, les petits villages, et puis Saint-Tropez, et puis Paris, et puis...
Sentiment
et puis
distingué.
Les classes sociales très aisées. On voit aussi vraiment des gens qui sont dans des conditions très, très difficiles, et puis on voit des tout petits enfants, et puis des gens très âgés. Il me semble que ce qui donne le caractère monumental de Sempé, c'est cette espèce d'aspect exhaustif. Et c'est pas parce qu'il est impressionnant, c'est parce qu'il a tout dessiné.
Lorsque vous dessinez des enfants, il y a une forme de jouissance, d'abandon.
Ah oui, j'aime bien dessiner des enfants. Oui, oui.
La part d'enfance, 25 juillet 2012.
Parce que je les imagine toujours assez contents, finalement. Mais quand je vois des petits gosses dans la rue, je me demande, surtout quand ils sont seuls, j'adore les enfants seuls. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils font comme ça, se mouvoir bizarrement ? Ou... Oui, je voudrais savoir, ça m'amuse de savoir ce qu'ils pensent.
Et ils sont toujours tout petits par rapport à un monde immense, souvent en couleur. Souvent solitaire.
Oui, mais ma chère, nous ne sommes pas très grands par rapport au monde immense qui nous entoure. Ils sont petits, mais nous aussi.
Il était dans une famille compliquée, avec effectivement un père qui n'était pas son père, qu'il appelait Monsieur Sempé.
Marc Le Carpentier, journaliste.
Et évidemment, Monsieur Sempé avait un défaut, c'est qu'il était représentant en sardines et en différentes choses, et à chaque fois qu'il allait chez un client, il buvait un petit verre, et il lui arrivait fréquemment de rentrer le soir en étant un peu éméché. Par conséquent, ça donnait lieu à des colères de sa part, des colères de sa femme, et Jean-Jacques était au milieu de ça, un peu angoissé, un peu terrifié même. Il prenait des claques et il raconte que ce qui l'a sauvé, c'était d'écouter la musique en trifouillant le poste de radio dans l'escalier et en entendant un certain nombre de musiques américaines notamment, et celui qui allait devenir son idole absolue, c'est Duke Ellington. Et puis après, il y a eu évidemment Ray Ventura et cet orchestre absolument extraordinaire qui était celui de Ventura.
Il a eu une enfance très dure.
Mette Ivers, peintre.
deuxième épouse de Jean-Jacques Sempé.
Je crois qu'on naît avec une nature particulière. C'était un esthète et un dandy. Et il a vécu dans des conditions plutôt mesquines et misérables, parce que ses parents n'avaient pas d'argent et il a beaucoup souffert de ça.
Sa mère était une fille-mère, ce qui n'était pas très facile en 1932. Et puis...
Inga Sempé.
Voilà, une grande pauvreté. Il ne parlait pas beaucoup de son enfance.
Designer, fille de Jean-Jacques Sempé.
Par les bribes qu'il décrivait, on voyait que ce n'était pas très joyeux. Il disait bien que sa mère lui donnait une baffe quand il était à côté du mur, en lui disant comme ça, tu en auras une autre avec le mur.
Moi, j'ai fait du dessin parce que je ne savais pas faire autre chose.
Radioscopie.
Vous avez fait des études sérieuses?
Non, j'ai pas fait d'études.
20 novembre 1972.
Vous n'avez pas eu la chance d'aller faire, peut-être. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui?
Aujourd'hui, maintenant?
Oui.
Non, je l'ai regretté pendant, disons, 20 ans. Oui. Maintenant, je suis assez content. Ça m'a donné une notion de doute. Je sais pas si c'est bien. C'est peut-être pas... Mais enfin, c'est pas mal.
Il a jamais beaucoup aimé l'école. Il était très chahuteur. Il était capable d'enrôler ses copains pour monter sur le toit et faire les imbéciles. Donc... Ce qui était un échappatoire, c'était le patronage. Avec d'autres copains, finalement, parce qu'il jouait un peu au football. Alors, il a quand même eu son brevet. Et puis, ça s'est un peu arrêté là, parce que il avait le sentiment qu'il lui fallait gagner de l'argent, parce que ses parents n'en avaient pas assez. Et donc, il a décidé de vers 14 ans, quand on pouvait quitter l'école à cette époque, de faire des petits boulots. Alors, il a fait des petits boulots dont certains sont plutôt assez drôles. Il a été représentant de dentifrice en poudre, par exemple. C'est toujours un truc qui m'a amusé, parce que le premier client qu'il a vu avait pas de dents. Enfin, bref, il a été viré très vite. Le seul endroit où il est resté un peu plus longtemps, c'est chez un courtier en vin, pour lequel il se déplaçait en faisant goûter des échantillons, jusqu'au moment où il a mélangé un peu les échantillons et où il s'est fait virer. Et à partir de là, il était soucieux de monter à Paris. Il avait rencontré Chaval, qui était bordelais, qui lui avait dit que c'était un métier de dingue. Il faisait déjà des dessins sans plus. Il est monté à Paris, il a falsifié sa carte d'identité pour se faire accepter par les militaires, pour faire son service militaire à l'avance.
Il a devancé l'appel.
Une anecdote assez drôle, il fait son service militaire, il défile au 14 juillet sur les Champs-Élysées, mais il oublie son fusil. Donc évidemment, il se fait mettre en prison, enfin bon, voilà. Pendant qu'il est à l'armée à Paris... Il passe un diplôme d'infirmier ou d'aide-infirmier, quelque chose comme ça. Et donc, sur son cahier, au lieu de prendre des notes, il dessine plutôt. Et il fait presque un peu... Enfin, il s'essaye presque à la caricature. Quand on voit ces cahiers-là, on voit bien qu'il essaie de faire des personnages, des choses. Mais c'est pas... Sur les cahiers, c'est pas vraiment du dessin d'humour. Mais parallèlement, il commence à faire des dessins d'humour. Et il rencontre son copain, celui qui va devenir son copain, Bosque. À l'époque, on place les dessins dans les journaux, on les dépose à l'entrée, et puis on revient 8 jours après, voir si le dessin a été publié. Et dans ce cas-là, on touche 4 sous. Et s'il n'a pas été publié, ben on repart avec son dessin dans son carton à dessin. Donc il essaye tout ça. Il déménage... un certain nombre de fois, c'est quand même la dèche. Il faut savoir qu'il est monté à Paris parce qu'il avait envie de faire du dessin à Paris, mais aussi parce qu'il était amoureux de la petite jeune fille qu'il avait rencontrée à la piscine à Bordeaux et qui habitait Paris, qui elle venait en vacances à Bordeaux. Et il se marie avec elle, c'est sa première femme, qui elle fait un peu bouillir la marmite, comme on disait naguère. C'est-à-dire qu'elle est ouvreuse dans un théâtre, et qu'elle gagne un peu d'argent quand Jean-Jacques, lui, a beaucoup de mal à en gagner avec ses dessins. Il se trouve que il va faire un premier dessin dans un hebdomadaire qui s'appelle Moustique, qui est un hebdomadaire belge, Et là, il rencontre René Goscinny.
Un jeune personnage en passe de devenir célèbre est le petit Nicolas de messieurs Sempé et René Goscinny. Cette excellente équipe, avec ce nouveau et modeste héros, réussit cette performance rare, divertir avec leur ouvrage, bien que pour des raisons diverses, les petits et les grands.
Plein feu sur les spectacles du monde, 4 décembre 1961.
Voici donc le petit Nicolas revenu parmi nous. Eh bien, je voudrais demander à leurs auteurs, Sempé et Goscinny, Goscinny et Sempé, comme vous voudrez, de se présenter mutuellement. Alors, voulez-vous commencer, monsieur Goscinny ?
Oui, certainement. Dois-je parler de moi ou de Sempé ?
Parlez de Sempé. Sempé parlera de vous.
Ah ben, c'est parfait. Eh bien, je connais Sempé depuis déjà pas mal de temps. Je crois que je n'ai pas besoin de dire ce qu'il vaut comme dessinateur. Par conséquent, pour un auteur, c'est une bonne chose de l'avoir comme illustrateur. Il est père d'un petit Nicolas, justement. Il est complètement farfelu. Il ne fait pas...
Le petit Nicolas ou le père ?
Les deux, ils se ressemblent.
Le petit Nicolas beaucoup. Tenant du père.
Oui, il est bien parti d'ailleurs pour ressembler au père. C'est sans effort d'ailleurs, il ne joue pas à l'humoriste. Je crois que c'est malgré lui, il ne peut pas s'en empêcher.
Et vous, Sempé, voulez-vous nous parler de Goscinny ?
En ce qui concerne, oui, vous savez que moi c'est mon biographe favori et j'aime beaucoup quand il parle de moi. Non mais moi, René Goscinny, c'est le...
Je crois que c'est le point commun étrange entre Goscinny et Sempé qui ont fait rêver tous les enfants français avec le petit Nicolas.
Johann Sfar.
C'est qu'aucun d'eux n'a eu une enfance simple. Goscinny qui a grandi en Amérique du Sud, qui venait d'une famille juive, qui a été touchée par la Shoah, inventé un petit français modèle. Et Sempé a été un enfant maltraité et témoin des disputes de ses parents. Et donc je crois que chez Goscinny comme chez Sempé, il y avait l'envie d'inventer l'enfant idéal, l'école idéale et l'enfance qu'ils n'ont pas eue. Et ça, je suis très sensible à ça. Je crois qu'il y a une universalité du récit d'enfance, il y a une récurrence chez les grands dessinateurs du malheur enfantin ou de l'enfance escamotée. On retrouve ça dans toutes les générations. Donc évidemment, c'est un lieu d'attachement pour moi dans son œuvre. Une façon aussi de représenter les enfants, pas comme s'ils étaient mignons, pas comme si on les regardait d'au-dessus, mais ils les regardent à leur hauteur.
Nous avons écrit ce conte qui était pour nous une histoire unique. Enfin, nous ne pensions pas que ça allait continuer, mais ça a eu du succès. On nous a demandé de continuer et nous n'avons pas arrêté depuis. Et mon Dieu, on est arrivé à s'y habituer, à ce personnage, on l'aime bien, pour nous il existe.
On parle beaucoup de Nicolas, mais il n'y a pas que Nicolas dans le livre. En réalité, c'est la vie d'un groupe d'enfants, plus que la vie d'un petit garçon. C'est la vie d'un groupe d'enfants. Il y a une quantité d'autres héros qu'a créé M. René Goscinny.
Mais dites-moi, pourquoi avez-vous donné des noms si particuliers à vos enfants ?
C'était une idée comme ça. Un jour, je me suis dit... Mon Dieu, sortant un petit peu de Pierrot, Jeannot, Paul. Et puis alors, il y a une chose surtout qui m'a ennuyé. Je me suis dit, j'ai beaucoup d'amis, ces amis ont des enfants. Si j'appelle un petit garçon Jeannot, tous les parents que je connais qui auront un enfant Jeannot seront sûrs que je parle de leur Jeannot. Ils vont me téléphoner à toute heure du jour pour me dire, et puis Jeannot a dit ceci aujourd'hui. Ils vont même se vexer s'ils ne le voient pas dans le conte suivant. Eux, Dagnan, Alceste, c'est quand même relativement plus rare.
Et quant à vous, Sempé, quand vous leur donnez un visage, quand vous leur donnez une silhouette plus exactement, est-ce que c'est après que Goscinny vous a lu un passage, vous a expliqué ce qu'il allait faire, ou bien ça peut être le contraire, ça peut être votre dessin qui le conduit, et je suppose que quelquefois c'est l'un et quelquefois c'est l'autre.
Oui, ça je ne sais pas du tout, alors ça je ne peux pas répondre à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que là, non, je crois pas...
Vous savez, notre collaboration n'est pas la collaboration d'un auteur et d'un illustrateur, c'est beaucoup plus étroit que ça. Nous voyons tout le temps, nous parlons souvent du personnage, les idées viennent de nous deux très souvent, nous le construisons ensemble. Par exemple, il y a des choses que je ne connais pas, qui n'ont pas été celles de mon enfance, qui ont été celles de l'enfance de Sempé, par exemple, auquel moment il me donne tous les détails techniques. C'est vraiment le fruit d'une collaboration et vraiment très étroite. Enfin, ce n'est pas parce que nous sommes ici devant un micro que nous disons, nous sommes une équipe, etc. C'est réel, c'est vrai.
T'inquiète pas, je maîtrise.
J'ai adoré lire le petit Nicolas quand j'étais petite.
Vous l'avez lu enfant ? Ouais.
Évidemment, je le lisais tout le temps. Je le lisais dès que j'étais malade et j'étais tout le temps malade. Ce que je n'aime pas, c'est quand on résume mon père au petit Nicolas. Voilà. Et à la tendresse et à la poésie. Je trouve que c'est très réducteur. Et c'est l'enfermer dans une espèce de sirop de tendresse. pas très intéressant. Mon père, ce n'est vraiment pas que le petit Nicolas, et il n'en pouvait plus du petit Nicolas.
Son copain Bosque, un jour, fait un album. Alors là, il est jaloux. Heureux et jaloux en même temps, en disant « Mais moi, j'aimerais bien faire un album, et voilà. » Le petit Nicolas, ok, c'est bien, ça m'amuse, ça me fait plaisir, je suis heureux de travailler avec René Goscinny. Mais moi, mon envie, c'est un album personnel de dessin d'humour. Et finalement, c'est ce qui se passe en 1962 avec le premier album qui s'appelle « Rien n'est simple » et qui est assez vite bien accueilli quand même.
Quand il avait un de ses premiers albums qui était sorti, parce que c'était pour lui de rêve, quand il a vu son
livre,
comme j'ai fait aussi d'illustration, je me rappelle la joie qu'on a lorsqu'on voit ses dessins imprimés dans un objet comme ça. Et lui, très perfectionniste, c'est lui qui avait choisi le format, la typo, là. C'est lui qui avait tout décidé. Hein. Il était de somptueux. Il avait un goût pour ce qui était bien fait, bien fini. Je me rappelle, pourtant, il n'était absolument pas narcissique. Il n'était jamais content de ce qu'il avait fait. Il se comparait toujours aux autres et se trouvait tout à fait insuffisant. Mais moi, il tournait les pages. Il caressait le papier. Je voyais qu'il éprouvait un grand plaisir, une satisfaction que toutes ces heures passées à dessiner des foules, les petits visages, les nez, tous les détails. Ça, je pense que quand il le faisait, il était... il n'était pas malheureux.
J'ai observé que certains hommes importants des dessins de Sempé portent leur cravate sur l'épaule. Comme si cet accessoire de leur puissance avait vocation à flotter au vent, pareil à un drapeau. Alors qu'il adhère sagement au buste de leurs adjoints. J'ai observé que les personnages coléreux dessinés par Sempé ressemblent à des enfants. Pendant leurs accès de rage, leurs silhouettes s'animent, comme celles qu'ils représentent dans les cours de récréation. J'ai observé que Sempé, qui se méfie un peu de l'époque, aime en revanche le temps qu'il fait, le soleil qui noircit les ombres, les ciels brouillés qui les diluent, la pluie, le vent, les traces de pas sur le sable mouillé, la fin des vacances et l'arrière-saison. J'ai observé que le cadre des vélos dessiné par Sempé n'avait pas d'épaisseur. La tubulure se réduit à un fil de fer. Les cyclistes sont des funambules, exécutant sur leur fine monture un numéro périlleux.
Le miracle, c'est que il passe effectivement du dessin d'humour des journaux qui est un truc un peu facile, à quelque chose qui va vers un regard sur la société, avec, on pourrait dire, une part de philosophie, une part de poésie, et évidemment une part d'humour. Tous les dessins de Jean-Jacques Sempé ne sont pas des dessins qui font rire aux larmes. Hein. Il y en a qui sont plus des peintures, on pourrait dire, plus des nouvelles qui s'adressent à l'intelligence du lecteur, c'est-à-dire que c'est au lecteur, quand on regarde un dessin de Jean-Jacques sur New York ou sur le chat dans la bibliothèque, comme celui qui est en face de moi là, il y a une part de la nature humaine qui est en place. Ce chat qui regarde l'agitation de la rue dans une bibliothèque où il y a 1000 livres, c'est un peu Jean-Jacques Sempé qui regarde l'agitation de la rue et qui peut-être aurait aimé lui-même être un chat.
Donc les années 60, ça va être une époque, une décennie bénie pour Jean-Jacques Sempé. En fait, le succès ne va jamais se démentir. Et il devient, je crois, une figure de Saint-Germain-des-Prés.
Là, c'est le moment où il vient habiter à Saint-Germain-des-Prés, rue du Dragon, et où effectivement il fréquente cette société un peu de l'époque. Il va énormément chez Castel, avec Françoise Sagan et d'autres. Il s'y amuse beaucoup, comme il s'amuse quand il va après à Saint-Tropez, dans les mêmes années. Et il regarde ça avec étonnement, et en même temps, est-ce qui participe vraiment à tout ça. Il va aux fêtes qu'organise Barclay, par exemple. Et il raconte qu'il était étonné parce que tous ces gens l'impressionnaient et en même temps, sans qu'il veuille le dire vraiment, il se sentait un peu à part de tout ça. Il avait un regard décalé. D'ailleurs, il y a un album qui s'appelle « Un léger décalage ». C'est pas un hasard, il se sentait décalé par rapport à tout ça.
Comment vient l'idée d'un dessin ?
Radioscopie, 20 novembre 1972.
Moi, ça m'a toujours préoccupé.
Ben, moi aussi, figurez-vous, ça me préoccupe beaucoup même. Parce que si je le savais, mon problème serait résolu. Je sais pas, en réfléchissant. En général, les gens croient qu'on se promène dans la rue, qu'on voit un truc.
Oui.
C'est pas vrai, jamais.
C'est ce que j'ai toujours cru.
Non, ça ne s'est jamais produit. On voit jamais un dessin humoristique dans la rue. Vous voyez quelqu'un qui tombe, ça vous fait bien rire. Mais c'est pas un dessin humoristique, ça. C'est pas.
À un certain moment de votre journée, vous êtes inspiré.
Moi, inspiré. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un d'inspiré? Non, à certains moments de ma journée. Bah écoutez, quand je suis inspiré, j'ai envie de me promener. Alors là, je suis inspiré, oui. Je me dis, tiens, la vie est pas mal quand même. Mais à part ça, je cherche longtemps. Une idée de dessin, ça me prend beaucoup de temps.
Quand on lui demandait comment vous vous y prenez, il dit toujours, j'ai pas envie de le faire, je m'y mets le plus tard possible, je sais pas comment je m'y prends.
Johann Sfar.
Moi, j'essaie de prendre au sérieux ce que disent les gens. Je pense que c'était vrai. Je pense que Sempé était une personne pour qui le dessin était mystérieux, pour qui le dessin était douloureux.
Tous les matins, Jean-Jacques n'allait même pas boire un café tout de suite. Il allait à sa table.
Mette Ivers.
Il dessinait n'importe quoi, un petit, faisait quelques traits, comme un pianiste qui ferait quelques notes sur son clavier. Il restait comme ça. Tout le monde, les gens auraient dit, mais il fout rien ce type. Qu'est-ce qu'il fabrique là? Il était là, il baille au cornet, et pas du tout. Il était en train de se creuser, de trouver une idée sur un thème.
Il travaillait vraiment, quand je dis 24 heures sur 24, c'est parce que je pense que même la nuit, dans ses rêves, il avait des idées, des choses. Alors il notait parfois sur un petit carnet des idées.
Marc Le Carpentier.
Il travaillait, c'est simple, il se mettait à la table. À l'époque, il fumait, donc il allumait une cigarette dans la main gauche. Il avait son crayon dans la main droite et il attendait l'idée. Alors ça pouvait durer un moment. Alors pour se tranquilliser, il faisait une petite dame en vélo ou il faisait des choses, voilà. Et puis, bon, il disait, et il ne mentait pas quand il disait ça, que ça pouvait durer une heure, une journée ou plusieurs jours. Et que c'était du coup un métier de chien et que Chaval avait bien raison. Parce que c'était surtout quand il avait l'obligation de donner un dessin aux journaux, et à l'Express notamment, toutes les semaines.
C'était un calvaire, ça lui a gâché la vie. Enfin, en même temps, c'était sa vie, il aimait beaucoup ça. Mais c'était un assujettissement quotidien. Je me rappelle quand on était à Saint-Tropez, on avait loué une maison à l'année, une petite maison dans les vignes, pas confortable, mais on était très heureux. Il dessinait là. Il était très copain avec le facteur de Saint-Tropez, du village, qui s'appelait Pierrot et qui se piquait d'art. Jean-Jacques l'appelait, il venait chercher le dessin terminé, il l'amenait à la poste. Et alors, je me rappelle une fois, parce que je sais qu'il avait beaucoup peiné sur ce dessin, je lui dis, écoute, bien sûr, il faisait un temps méditerranéen de l'époque, chaud, mais pas trop. Et on est allé, je lui dis, la mer était à deux pas, hein. On descendait un petit chemin caillouteux et on était au bord de la mer. Et je lui ai dit, viens te baigner là, tu as fini ton travail. Il m'a regardé avec un regard de haine et il m'a dit, n'en est pas question, tu sais bien, je dois en refaire un autre pour la semaine prochaine.
Comme disent certains de vos confrères dessinateurs, vous avez un physique sans paix.
Radioscopie.
Vous auriez pu faire du cinéma?
Comment ça, comme disent certains confrères dessinateurs? Pourquoi?
Souvent, on m'a dit, sans paix, un physique, c'est un beau gosse.
Mais c'est assez... Vous savez, en général, quand je parle des dessinateurs, je parle plutôt de ce qu'ils font que de leur physique.
Oui, j'imagine, mais c'est eux qui en parlent après.
Ah, mais oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, c'est pas croyable.
Mette Ivers, vous avez rencontré Jean-Jacques Sempé au tout début des années 60. Comment s'est déroulée cette rencontre?
Ah, ça, c'est assez amusant. J'étais engagée depuis un an au journal culturel Candide, comme pigiste. Dès qu'il y avait un trou dans une colonne de texte, dans un article, quel qu'il soit, c'était pour illustrer l'horticulture, la culture, des pages de littérature ou des rubriques de sport, de cuisine, n'importe quoi. C'était vraiment un magazine polyvalent. Et on était les bouches-trous. Donc j'étais un de ces jours de travail dans le bureau où je travaillais avec les maquettistes. Et Sempé est arrivé et il apportait un dessin humoristique. Et moi, j'adorais déjà ses dessins. Je me suis donc levée et j'ai été lui dire bonjour et je lui ai dit « j'adore vos dessins ». J'en ai plein chez moi que j'ai découpé dans les journaux et que j'ai collé au mur. Puis je me suis rassis et j'ai recommencé à travailler. Il devait être 3h de l'après-midi. 2 heures plus tard, je descends et il m'attendait en bas de l'ascenseur. Et donc, il avait attendu que je sorte pour me proposer d'aller boire un verre dans le coin. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Vous voilà. Aviez quel âge ?
J'avais 27 ans et il devait avoir 28. Ouais. On était encore jeunes, quoi.
C'était un séducteur, Jean-Jacques Sempé, un homme qui aimait les femmes.
Écoutez, séducteur, certainement. En tout cas, il a essayé de séduire à tour de bras. C'était presque pathologique chez lui. C'était un besoin, sans doute, de se rassurer, ou je ne sais pas, ou un besoin de pouvoir, de conquête, de... Il était vraiment un homme à femme.
Quel genre de père aviez-vous, Inga Sempé ?
C'était un homme qui n'aimait pas les enfants, qui n'en voulait pas, et comme beaucoup d'hommes en a eu. Voilà, je pense que ça résume à peu près. Un homme très dur et assez froid et brusque.
Il n'aimait pas les enfants et pourtant il a dessiné l'univers de l'enfance avec beaucoup de grâce, et il semble qu'il y ait quand même dans les familles de Jean-Jacques Sempé une certaine harmonie familiale.
Alors oui, il a beaucoup dessiné d'enfants, mais c'est pas parce que vous dessinez bien quelque chose que forcément vous avez envie d'en être entouré. Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense qu'il dessinait très bien justement des choses qui ne lui plaisaient pas pour essayer de peut-être de les aimer mieux. Il n'avait pas aimé son enfance. Voilà, il aimait pas les enfants, il aimait pas la famille non plus. Bon, je vivais pas avec lui, sauf en vacances. De toute façon, il travaillait tous les jours, enfin presque tous les jours. Il avait toujours une table de dessin là où il allait, enfin dans les maisons qu'il avait. Bien sûr, j'ai passé ma vie à voir des plumes à dessin, de l'encre de Chine, les petits outils, je ne sais pas comment ça s'appelle, des grattoirs avec de la fibre de verre et des lames à rasoir pour gratter toutes les parties erronées d'un dessin ou les détails qui lui semblaient pas bien. Il me demandait même de gratter des grandes zones des fois pour rentabiliser ma présence. Je devais tailler les crayons.
Vos parents se sont séparés quand vous aviez quel âge ?
Ah mais ma naissance a été... a renvoyé ma mère dans sa cuisine personnelle. Il n'avait pas envie d'être avec un enfant, ni une femme avec un enfant.
Je pense que Sempé était profondément misanthrope, et pourtant son dessin respire l'amour de l'espèce humaine. Et ça, c'est tout le miracle du dessin. Et ça m'a appris beaucoup parce que je me sens un peu pareil. Je me réveille le matin, je déteste tout le monde, je vois la tête des gens, ils m'agacent, je suis de mauvaise humeur, et dès que je dessine les gens... je me mets à les aimer. Donc il me semble que Sempé, c'est quelqu'un qui avait besoin du dessin pour supporter la vie, l'espèce humaine, les gens. Il y a un autre aspect auquel je suis très sensible, c'est Sempé amoureux. Je crois que raconter l'histoire de Sempé sans raconter ses histoires d'amour, c'est passer à côté, puisque j'ai l'impression que c'est ce qui l'intéressait le plus dans l'existence.
Bonjour Martine Gossiot.
Bonjour.
Nous sommes à la galerie Martine Gossiot, rue de l'Université à Paris. La galerie que vous aviez fondée avec Jean-Jacques Sempé, votre mari. Comment avez-vous rencontré Jean-Jacques Sempé ?
Je l'ai rencontré parce que je travaillais dans la publicité à ce moment-là. J'étais directeur artistique et je rêvais toujours, j'ai toujours une passion pour les dessinateurs. Moi-même, je dessinais. Et j'ai fait une campagne de publicité avec mon rédacteur avec qui on travaillait, qui était sur le Petit Robert. Et on a décidé d'aller voir des dessinateurs pour... voilà, on a fait une campagne sur ça. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'ai monté chez lui rue du Dragon et j'ai frappé à la porte, personne, j'ai rien compris. Je suis redescendue, je suis allée voir la concierge, il y avait une concierge et qui me dit si c'est bien là, mais je pense qu'il est parti parce que je m'occupe de son courrier. Et j'allais partir et juste devant le portail, il est rentré, un parapluie à la main, je le vois toujours, son de Felcote Burberry.
Quel genre d'homme vous est apparu ?
Magnifique, absolument magnifique. Ah oui, en plus, très spontané, comme ça, très... Oui, oui, était magnifique.
On a déjeuné ensemble et voilà.
Et il m'a dit, qu'est-ce que vous aimez comme musique? Vous aimez quoi? Et moi, je lui ai dit, les grands orchestres. J'adore les grands orchestres de jazz. Et il est resté, mais sidéré. Il m'a dit, mais à votre âge? Mais... Je dis, mais oui, Duke Ellington, Count Basie et tout. Et il était mais, sidéré, puisque lui, c'est vraiment, c'était sa passion.
Il avait quel âge?
Il avait 50, voilà, par là. Et moi, j'en avais 29.
Donc, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre et...
Oui, c'était vraiment un coup de foudre à ce moment-là, vraiment. Moi, j'étais mariée, en plus, lui aussi. Il avait cette petite fille, une petite fille, et un garçon qui était d'un autre mariage. C'était quelque chose d'un peu compliqué. On a pris un appartement Place Saint-Sulpice et on s'est installé là. Et moi, j'ai quitté la publicité, j'ai quitté mon mari, j'ai quitté... Donc, j'avais rien, en fait. Lui était toujours marié et j'ai commencé à faire des maquettes pour Jean-Jacques. Il travaillait énormément, il travaillait beaucoup le matin et déjeuner chez lui au Flore ou un truc comme... Et ensuite, il aimait beaucoup aller chez De Noël. Après, il retravaillait et ensuite, c'était... Lip, Castel, le Flore, que des restaurants. Voilà, il aimait beaucoup dans ces cas-là sortir le soir, puisqu'il avait travaillé la journée, il avait juste fait un petit tour ou quelquefois il restait même des journées entières sans sortir. Donc il aimait beaucoup aller au contact comme ça de gens, d'aller voir, mais toujours un peu dans ce milieu. Et là, on retrouvait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de toute cette époque. Il y avait Topor, il y avait des dessinateurs, mais il y avait aussi des comédiens. Il y a Jean-Pierre Mariel, Jean-Jacques Debout, toute une bande comme ça le soir.
L'un des trucs dont il souffrait, c'était la solitude. C'est vraiment la solitude du dessinateur de fond. Il était chez lui. Alors, il essayait de trouver un copain pour déjeuner. J'en ai fait partie. On a régulièrement déjeuné tous les 15 jours ou tous les 8 jours parfois chez Lip. Avec systématiquement le même menu. C'était bien, c'était hareng pomme à l'huile, sole sèche et ce gâteau à la crème pâtissière, voilà. Et puis il lui arrivait à côté de ça de fixer un déjeuner et de ne pas y aller. Il avait un certain goût du mensonge parfois, du mensonge par omission ou du mensonge...
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire, il disait « Ah, on devait déjeuner, mais excusez-moi, j'ai une sciatique et je pourrais pas bouger. » Je raconte une anecdote véritable là, de quelqu'un qui devait déjeuner avec lui, et puis finalement, celui qui devait déjeuner avec lui va au restaurant et rencontre Sampé qui est au restaurant.
Qui va très bien.
Avec une dame.
On connaissait Jean-Jacques par ce qu'il faisait dans Match, c'est-à-dire ses dessins humoristiques en noir et blanc. Mais moi, quand je l'ai rencontré, il faisait le livre qui était donc Les Musiciens à cette époque-là. Il se mettait à faire beaucoup d'aquarelles. C'était un moment où il se cherchait aussi un peu dans le travail.
Je sais qu'on lui a reproché de dessiner les saxophones avec le bec à l'envers.
Ah oui, 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 oui. Il disait toujours aussi que si on regardait bien les mains posées sur les touches du piano, ça n'allait pas du tout. J'ai une sérigraphie ici, à chaque fois qu'il la voyait, il disait « Oh, mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour que... » La main ne peut pas être comme ça sur le clavier. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il avait aussi... il mettait à l'envers, et oui, absolument. Et s'en voulait... Mais il ne pouvait pas faire... Oui, il pouvait pas faire autrement.
Il aurait aimé être musicien.
Oui, il aurait aimé. Oui, oui, il aurait beaucoup aimé être musicien, je crois. Vraiment, c'était une chose qui... Il avait une oreille extraordinaire. Il avait une oreille, mais magnifique, puisqu'il arrivait comme ça sur un piano à retranscrire juste à l'oreille, comme ça, des débuts de morceaux.
En 1978, il réalise pour la première fois la couverture du New Yorker, avec un de ses dessins qui joint l'absurde au familier et nous amuse dans l'exacte mesure où il nous déconcerte.
Le New Yorker, c'est effectivement pour lui
le Graal.
Le Graal, le summum. C'est absolument formidable. Il est allé aux États-Unis une première fois avec Alex Graal, mais il n'a pas osé rentrer dans l'immeuble du New Yorker. Et un jour, quand même, la directrice du New Yorker vient à Paris regarde les albums et dit « Ah bah vous pourriez peut-être nous envoyer un dessin pour une couverture ». Voilà, donc il fait ce fameux dessin avec l'oiseau sur le bord de la fenêtre qui va s'envoler.
Il représente un petit monsieur à lunettes et à corps d'oiseau, perché sur la balustrade d'une fenêtre.
Il n'a jamais voulu aller vers eux. Il disait toujours « c'est eux qui viendront vers moi un jour ou l'autre ». Ce n'était pas du tout prétentieux de sa part, c'était simplement humble. Et donc, quand il a eu sa première couverture, pour lui, ça a été vraiment une révélation et de travailler avec eux. Et là, il s'est mis à faire beaucoup d'aquarelles aussi. Et c'est quelqu'un qui, sans jamais avoir appris, a vraiment un sens de l'aquarelle absolument extraordinaire.
En tout, Sempé signe une centaine de couvertures du New Yorker, qui lui offre en même temps qu'une visibilité mondiale, la chance peut-être plus grande encore de pouvoir s'exprimer en couleur et d'apprendre à dessiner les gratte-ciel.
Il est impressionné par New York, par tout un tas de choses qui l'étonnent, parce qu'il commande des repas. Et tout d'un coup, il y a des repas qui arrivent, ce qui se fait maintenant de manière assez courante. Mais à l'époque, il n'y a qu'à New York qu'on fait ça. On commande des pizzas ou on commande des repas chinois ou je sais pas quoi. Donc il est impressionné aussi par le fait que les gens montent leur vélo sur leur balcon. Et puis il est impressionné par l'architecture. C'est une architecture qui n'est pas l'architecture qu'il préfère. Il préfère évidemment les balcons haussmanniens. Mais il est impressionné aussi par les parcs, comme il est impressionné par le Luxembourg, qui était près de Saint-Sulpice, où on allait beaucoup se promener de temps en temps. Il joue au tennis, d'ailleurs, au Luxembourg, assez fréquemment. Mais New York, encore une fois, il y a toujours, chez Sempé, deux choses qui s'opposent. C'est-à-dire qu'à la fois, il est fasciné, et en même temps un peu angoissé, quoi, cette vie. Et puis, il a un handicap qui l'agace beaucoup, c'est qu'il ne parle pas anglais. Et donc, il dit, si j'avais parlé anglais, peut-être que je me serais un peu installé à New York. Si je peux raconter une chose, encore une fois, d'un dessin, il y a une chose qui a fait une couverture du New Yorker. C'est un chat qui est dans... Il y a un escalier dans un appartement new-yorkais. Et le chat est assis sur le début de la rampe. Bon. Et le dessin a été publié comme ça. Mais ce dessin a une histoire assez amusante. C'est que Sempé, quand il a fait ce premier dessin, le chat avait sa queue qui dépassait de la rampe d'escalier et qui venait faire une moustache à une petite fille. Il y avait donc un gag. Et Monsieur Schoen, qui est le patron du New Yorker, Monsieur Schoen a dit « Vous m'enlevez la petite fille, ça c'est lourd. » Et il se plie à ça.
Le plus ouais. important, c'est l'ambiance.
Oui, l'ambiance, la légèreté et l'élégance. C'est fondamental.
Quand on regarde ces couvertures, c'est vraiment très construit. Et donc, j'ai eu des versions, puisqu'il en a fait même presque terminées. Hein. Ils sont vraiment terminés. Mais ça ne lui plaisait pas, il recommençait parce que...
Intégralement un...
Ah oui, il recommençait intégralement le dessin. La plupart du temps, il esquissait un peu, comme ça, vaguement, la situation. Mais après, il allait directement avec la plume et l'encre de Chine. Ces fameuses plumes A423, c'était des plumes pour d'enfants, hein, vous savez. C'est des petits porte-plumes oranges, là, avec la plume qui se retourne dedans, qu'on a eu tous à l'école. C'est pour ça qu'il... Il gommait pas, il mettait le papier de côté, il y avait vraiment du papier chez Sennelier, livraire en cœur de temps.
Je n'ai jamais vu Sempé dessiner, parce que je crois qu'il n'avait pas envie qu'on le voit dessiner. Quand j'étais dans son atelier, on voyait des matériaux très simples, des grandes feuilles de papier, Scheller ou Canson, des plumes et de l'encre de Chine, et des aquarelles. Il y avait du matériau pour du repentir, c'est-à-dire pour coller, pour effacer, pour mettre du blanc. Je ne crois pas qu'il utilisait une table lumineuse, je crois qu'il allait de chic sur le papier, avec tout de même un crayonné qui parfois apparaît dans le dessin final, avec un rapport à la couleur qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut dire. Quand les gens voient de loin, ils ont l'impression que Sempé, c'est toujours pareil. En réalité, c'est jamais pareil. Je crois qu'il y a une chose dont les non-dessinateurs ne s'aperçoivent pas, c'est la variété du dessin et du travail de Sempé. Parce que, vu de loin, les gens se disent « Ah bah oui, c'est tout le temps pareil, c'est toujours les petits bonhommes dans un grand décor. » En réalité, il change de technique en permanence. Parfois, il y a un crayonné et il y a un ancrage. Parfois, c'est dessiné de chic. Parfois, il utilise des petits traits noirs pour faire des masses d'ombre qui sont très écrasantes. Parfois, il va utiliser des gouaches. Parfois, il va utiliser des aquarelles. Et cette diversité, on s'en aperçoit pas. J'ai eu la chance aussi, grâce à l'atelier de reprographie, de travailler avec les gens qui s'occupait des dessins de Sempé pour les emmener dans Paris Match. Bon, moi, quand j'amène mes dessins, je demande toujours qu'on remonte la couleur pour qu'on voit bien. Sempé donnait des indications inverses. Il demandait que le dessin imprimé soit le plus fidèle possible à ce qu'il avait fait sur le papier. C'est un choix. Donc, c'est ce qui explique aussi la douceur et l'unité de ce qu'on voit. Et les choses qui m'émerveillent le plus, c'est évidemment quand il y a le moins de traits possible et que ça tient. Il y a une manière d'attraper le réel qui fait qu'ensuite, on va voir les choses, on va se dire c'est du Sempé.
Ce qui m'a frappé chez lui, c'est la vacuité, dans le bon sens, c'est-à-dire le blanc.
Gabrielle Piquet, dessinatrice.
J'avais une difficulté, j'aimais beaucoup le dessin, mais j'avais une difficulté avec le trop, la bande dessinée en général. D'ailleurs, j'ai du mal avec ce médium, qui pour moi est surchargé. Je ne me sens pas assez libre. En tout cas, ça arrive bien sûr, mais j'en lis presque pas. Donc, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, je l'ai écouté lui. Un journaliste lui demande pourquoi il n'aimait pas la bande dessinée.
Parce que lui non plus n'aimait pas. Disait ne pas aimer la bande dessinée.
Et puis alors lui, c'était fin de la discussion, parce qu'il répond au type qui l'interview. Mais est-ce qu'on si vous n'aimez pas la crème dessert, ben voilà, il n'y a pas de raison. En fait.
Pourquoi se justifier ?
Je ne vais pas me justifier, il n'aimait pas. Voilà. Et lui, je me souviens que ce qui m'a frappé, c'est ce blanc en fait. Il y a quelque chose chez tout le monde, dessinateur ou pas, je crois, qui vient taper sur l'intuition de quelque chose. Je ne sais pas de quel ordre c'est. Peut-être de la grande liberté, du trait, de la petite chose qui apparaît comme ça, et donc de la petite chose qui est en l'occurrence une grande chose, qui est son trait, sa ligne, hop, qui apparaît dans ce blanc. Et ça, je me souviens que je me suis dit, si on peut travailler le dessin comme ça, de cette manière, ça m'intéresse. Mais ce qui est marrant, c'est cette manière qu'il avait de mettre ses gris.
Se mettre ces gris.
C'est-à-dire qu'il y a des, par exemple, qu'il met des masses de gris à certains endroits qui peuvent. Je trouve que c'est un peu gonflé, quoi. Parfois, ça pourrait ne pas passer, et puis ça passe bien. Ça va être un truc au trait, et puis dans un coin, il va y avoir une ombre. Non, mais on parle beaucoup du trait, mais il y a beaucoup aussi, il y a un travail de lumière aussi. Par exemple, là, j'ai un dessin sous les yeux d'un cycliste qui est tout seul sous la lune, donc tout est en.
Tout est
en
noir.
Fait, il n'y a pas de trait. Enfin, il y a un trait. C'est la nuit, mais voilà, on a une espèce. Tout est hachuré. Peut-être une espèce de lavis de gris en plus. Mais voilà, il y a aussi. On parle du trait, mais évidemment, il y a aussi une atmosphère, une ambiance. Par exemple, les ombres portées sous les arbres, ça, il a fait ça souvent, c'est très beau. C'est ombrageux, lumineux en même temps. Ombragé, pardon. Lumineux en même temps, c'est.
Un dessin auquel je pense, c'est le début des beaux jours à Paris. Je ne sais plus si c'est une femme ou un jeune homme qui est assis à la table d'un tout petit café dans un quartier avec des maisons très hautes. Et il y a un ray de lumière qui vient jusqu'à cette table. Et c'est vrai qu'à Paris, on est souvent comme ça en train de guetter le rayon de lumière. Mais Sempé, c'est vraiment un immense dessinateur de la lumière. Donc là, on a le gars qui fume sa cigarette dans un club enfumé. On a une lumière qui parvient péniblement jusqu'à nous. On a la brillance dans le piano. Donc le gars se reflète dans le piano, machin, mais on le voit pas. On voit le dessin, ça nous paraît évident qu'il ait réussi un club de jazz comme ça. Et ça, on peut pas le faire d'après photo, on peut pas le faire d'après document. Ça, il faut qu'il ait été dans un club de jazz, qu'il ait dessiné d'après nature des musiciens, ou en tout cas qu'il se les soit mis dans la tête, et de façon très intellectuelle. Quand j'étais petit, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mes profs me disaient... La peinture, c'est viscéral, le dessin, c'est intellectuel. Ils avaient raison. Le dessin, c'est une narration, c'est une construction mentale, c'est une grammaire, et ça signifie qu'il a fallu que Sempé conscientise la notion de reflet d'un musicien dans son piano pour que, de manière très simple, vous ayez ça. Si ça devait avoir un lien avec la peinture, ce serait la peinture de Vermeer, ce qui est la peinture la plus intellectuelle qui soit, c'est-à-dire c'est une peinture presque de construction gnostique, c'est-à-dire on va devenir obsédé par le petit pan de brique jaune. Bon, Sempé, c'est ça. Il y a moyen d'être obsédé par un détail dans chacun de ses dessins, ou les feuilles qu'il va faire dans un arbre, c'est le mouvement. Comment il a dessiné le vent ? Les feuilles vont toutes dans le même sens. Ou alors les arbres sont penchés. Il va assez peu avoir recours à la petite ligne qui dit la direction du vent. Il va utiliser dans tout le dessin cette espèce de souffle qui dirige tout dans une... Bon, c'est fou.
Avec amour, Sempé habille chaudement les vieilles dames frileuses, sur les épaules desquelles il jette une étole de renard. Il les coiffe d'un chapeau, qu'il agrémente parfois d'une fleur, voire d'un petit bouquet. En échange, elles lui jettent par-dessus leurs lunettes un regard reconnaissant. « Je suis des yeux les passantes âgées de mon quartier, en pensant à Sampé, branlante à pied ou solide sur leur vélo, étendant très longtemps le bras quand elle tourne à droite.
L'âge et la maladie surtout l'ont beaucoup affecté. Il a, pour lui qui était tellement dandy, ces dernières années ont été une épreuve épouvantable qu'il a endurée avec un courage. Franchement, on dit toujours « il ne se plaignait pas ». C'est vrai. Hein. Quand il lui arrivait d'avoir des gros problèmes, comme des toux incoercibles, quand il arrêtait de tousser, il disait « excusez-moi, excusez-moi ». Lui qui était un sportif, d'ailleurs il a eu son accident cérébral au ski, il nageait, il faisait du vélo, il montait les escaliers comme un centaure, enfin c'était incroyable. Et là donc il s'est retrouvé avec une jambe à moitié morte. Il a lutté pour essayer d'avoir une autonomie, mais... Et pour vous dire, comme il était dandy, il était toujours sur son lit avec ses chaussures en cuir, ses Weston, qui n'étaient pas du tout usées puisqu'il ne marchait plus. Il ne voulait pas être le vieux monsieur en pyjama. Ça, j'admire beaucoup cette dignité qu'il a eue. Seulement, de temps en temps, il disait « j'en ai marre ».
Ça aurait pu être le titre d'un album de Sampé. C'est assez...
C'est très concis, ça va droit au but. Oui.
Exactement.
Après son AVC, il a continué à dessiner. Disons qu'il a arrêté de dessiner 2-3 ans avant son décès. Mmh. Il se mettait encore de temps en temps devant sa table, mais sans grand enthousiasme. Simplement, il aimait beaucoup raconter ses rêves, Jean-Jacques aussi. Et il faisait des rêves complètement fous. Il raconte les dîners qu'il faisait avec Ravel, Debussy et Satie, et sa liaison avec Mona Lisa. Et il raconte que Léonard de Vinci était très jaloux et que c'était très compliqué de l'emmener dans les beaux... C'est absolument formidable. Et il aimait beaucoup ces espèces de rêveries, de petites fictions. Il en a écrit d'ailleurs beaucoup qu'il n'a jamais terminé, hélas. Il y a beaucoup de textes de Sampé qui sont des débuts d'albums. Un peu comme il avait fait ses albums avec Modiano.
Catherine Certitude.
Voilà, Catherine Certitude, Catherine étant le prénom de sa fille, qui s'est fait appeler Inga maintenant, mais qui s'appelle en fait, sur l'état civil, Catherine.
Pour moi, c'est un écrivain, de toute façon, sans paix. Dans ses légendes, c'était vraiment un écrivain à la base.
Moi, j'ai été frappé, effectivement, qu'il y a vraiment des albums de Sampé qui sont presque plus écrits que dessinés. Oui. Notamment l'album Par avion, où il raconte à un ami français ce qu'est New York.
Oui, alors ça, ce sont des histoires, voilà. Il écrivait comme ça. Et d'ailleurs, le mariage d'Olive n'a jamais été terminé. Il y a d'autres, il y en a des Docteur Jules, il y a d'autres, comme ça, livres qu'il a écrits qui sont formidables.
L'ascension sociale de Monsieur Lambert, c'est marrant parce que là, on est très, très dans le côté bande dessinée. Enfin, ça ressemble beaucoup à ça. On n'est évidemment pas dans un gaufrier classique bande dessinée. Là, on est vraiment dans un dessin par page. Et on a ces espèces de bulles avec des dialogues et en dessous, en plus, une écriture typographique avec... voilà. Et on est dans un roman graphique.
C'est ça.
Ce qui m'énerve, c'est quand on définit mon père comme étant un grand écrivain. Ce qui est en général le fait de gens plutôt de milieux aisés et très cultivés qui, en fin de compte, n'assument pas d'aimer du dessin d'humour. Parce que mon père, c'était un dessinateur d'humour. Et il voudrait faire croire que c'est un travail hyper intellectuel, que c'est un grand écrivain. Oui, il écrivait bien, mais il n'a pas modifié de structure de récit, il n'a pas modifié un style d'écriture. Donc, ça m'énerve quand on essaye de l'intellectualiser et qu'on essaye de se cacher le fait qu'en fin de compte, ce qu'on aime, c'est du dessin d'humour. Voilà, que c'était un dessinateur d'humour très très talentueux, que c'est pas la peine d'essayer de faire croire qu'il faisait un autre métier, soi-disant plus noble.
Inga Sampé, comment vous faites vivre aujourd'hui l'œuvre de Sampé, puisque vous avez la responsabilité morale et artistique de son œuvre ?
Comment je fais vivre ? Bah déjà, mon but, c'est de faire une dation pour que ces dessins soient pas éparpillés par une vente aux enchères pour payer nos droits de succession avec mes neveux.
C'est un don à l'État pour diminuer les droits de succession, c'est ça une dation ?
C'est pour s'acquitter des droits de succession, c'est la seule manière que nous ayons. Enfin, moi, ce que je veux, c'est protéger ces dessins, que ça reste en France. Je trouve ça intéressant de, que ça soit regroupé, qu'on puisse voir différentes décennies de travail qui sont des années 50 à peu près quelques années avant sa mort. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un artiste hyper populaire qui plaise à beaucoup, qui soit pas un artiste d'une certaine élite, qui soit acquis d'une certaine manière par les musées. Je trouve ça important qu'il y ait un art très populaire et en même temps très raffiné. Non pas que je veuille dire que l'art populaire n'est pas assez raffiné, mais que là, c'est un art qui plaît vraiment à différentes strates de la population. Mmh. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Par exemple, vous avez fait rééditer récemment Information Consommation, qui est un album étonnant, méconnu, je pense, de Sampé.
Oui, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire rééditer, parce que je trouve qu'il est très méconnu, alors qu'il est hyper particulier. C'est un peu le plus politique qu'il ait fait. Et il était paru dans des dimensions réduites. C'est pour ça que je voulais qu'il soit une dimension album, en partant des dessins originaux qui restaient, qui sont très très beaux, et bien sûr très drôles. Et on ressort le premier album de mon père qui s'appelle Rien n'est simple, parce que plutôt que de qu'il y ait une rue qui soit à son nom, ce que je trouve en fin de compte sinistre pour Paris, qui devient maintenant un annuaire de Jean-Pierre, de Jean-Jacques, de Jean-Paul, de Jean-Luc, et quelquefois quelques Nicole, je préférais que ça soit au nom d'un de ses albums, parce que je trouve ça plus poétique. Pour la ville. Je voulais que cet endroit, qui est un passage, en fait, s'appelle le passage du Rien n'est simple.
Ah, joli.
Voilà. C'est un parallèle à la rue Bonaparte entre le jardin du Luxembourg et la place Saint-Sulpice.
Qu'est-ce qu'on construit quand on réédite Rien n'est simple, qui, j'imagine, continue à se vendre?
J'essaie de trouver des inédits qui correspondent aux dessins originaux, d'autres versions,
okay,
qui puissent intéresser les amateurs. D'accord. Puisque c'est intéressant de voir que mon père faisait toujours en plusieurs exemplaires des dessins avant d'aboutir. Et donc, quand je peux trouver des variantes ou des croquis, j'essaie de les mettre. Mais ça dépend, d'accord, aussi de la place qu'on a par rapport au papier, parce que si on rajoute trop de cahiers, ça coûte trop cher.
Lui disait, j'ai à peu près réussi 5 dessins dans ma vie. C'était un peu fou.
Non, c'est un grand dessinateur. Et il se trouvait toujours nul. Je lui disais, mais tu dois quand même être content d'avoir fait, quand il était si malade, d'avoir fait bof.
Merci à Inga Sampé, Mette Ivers, Martine Gossio, Marc Le Carpentier, Christophe Carlier, Gabriel Piquet et Johan Sfar. Merci aussi à Victor Massé de l'Épinay. Extrait de « Happé par Sampé » de Christophe Carlier, lu par Olivier Martineau.
Si notre vie était dessinée par Sampé, je crois que même les déconvenues seraient amusantes.
Documentation Anne-Lise Signoret, Archivina Arnaud Planson. Prise de son Andreas Jaffré, Romain Lenoir. Mixage Pierre Henry. Attaché d'émission Sandrine Chaperon. Coordination Emmanuel Laurentin. Comment s'appelle votre chien ?
Pastiche. On avait un chat qu'il adorait. On avait Olive. Olive est beaucoup sur ses dessins. Ça a été vraiment une de les femmes de sa vie, la petite Olive. Il avait une passion pour cette petite chatte. Il était beaucoup plus chat.
Il était super, il pouvait dire des choses extraordinaires. Par exemple, il était triste parce que son chat était mort. Et il disait, c'est pas que le chat me manque, c'était, je joue pas bien au piano. Quand je joue, c'est le seul qui venait m'écouter. Alors ça, c'est adorable.
Jean-Jacques Sampé, Ombres et Lumières. Un documentaire de Julien Thèves réalisé par Marie-Laure Ciboulet.